Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série tellement importante concernant de mieux apprendre à connaître tout ce qui concerne Dieu, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le titre pour aujourd'hui sera « L'amour de Dieu ». L'amour de Dieu est souvent mal compris. Et on prêche beaucoup sur l'amour de Dieu, mais seulement d'une certaine façon, et vous allez apprendre tout cela maintenant. La Bible dit « Dieu est amour ». Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 8 et le verset 16. Cette affirmation répétée à deux reprises par l'apôtre Jean est l'une des plus extraordinaires déclarations de la Bible. C'est aussi l'une des plus mal comprises. Les idées fausses ont proliféré autour d'elle comme une haie d'épines dissimulant sa véritable signification, et ce n'est pas une mince affaire que de se frayer un chemin au travers de toute cette confusion d'idées. Cet effort de réflexion se trouve pourtant plus que récompensé lorsque le chrétien saisit le sens véritable de ce texte. Les alpinistes qui entreprennent l'ascension, par exemple, du Mont Blanc, ne regrettent pas leur effort lorsque ils découvrent la vue qui s'offre à eux depuis le sommet. Heureux, vraiment heureux, sont donc ceux qui peuvent répéter avec l'apôtre Jean ce qui précède la seconde affirmation que Dieu est amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Connaître l'amour de Dieu, c'est véritablement le ciel sur la terre. Le Nouveau Testament ne parle pas de cette connaissance comme du privilège de quelques chrétiens favorisés, mais comme d'un élément naturellement présent dans une expérience chrétienne normale et que seuls les malades ou les infirmes spirituels ignorent. Lorsque l'apôtre Paul disait « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné », Romains chapitre 5, verset 5, il ne parlait pas comme Augustin le pensait, parce que Augustin avait une idée qui n'était pas toute fausse, bien sûr que non, mais il n'avait pas étudié l'ensemble de toute cette question, l'amour, mais aussi la colère de Dieu. Et si on n'étudie pas les deux, eh bien on peut se tromper sur l'amour de Dieu. Alors donc, je répète, il ne parlait pas, l'apôtre Paul, de la même manière que Augustin, de notre amour pour Dieu, mais de notre connaissance de l'amour de Dieu pour nous, et bien qu'il n'ait jamais rencontré auparavant des chrétiens de Rome à qui il écrivait, l'apôtre Paul était convaincu que ce qu'il disait était aussi vrai pour eux que pour lui. Dans cette déclaration, il y a trois points qui méritent d'être soulignés. Notons d'abord le verbe « répandre ». Littéralement, ça veut dire « verser à flot ». C'est le verbe qui est utilisé dans les Actes des Apôtres pour parler de l'effusion du Saint-Esprit. Notez Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17 et le verset 33. Et vous pouvez continuer de noter Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 45, ainsi que Tite, Tite, chapitre 3, verset 6. Alors il suggère un flot large et généreux, une notion d'abondance, en fait, une inondation. Et cela fait vraiment une inondation de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul ne parle pas ici de sensations faibles et vagues, mais de sentiments profonds et irrésistibles. Un état qui résulte d'une action achevée, il faut donc comprendre que la connaissance de l'amour de Dieu ayant inondé nos cœurs, les remplit maintenant, tout comme une vallée, une fois inondée, reste remplie d'eau. L'apôtre Paul est persuadé que, tout comme lui, ses lecteurs auraient désormais le privilège de vivre avec cette conscience claire et durable d'être aimés par Dieu. Notons enfin que le don de cette connaissance est présenté comme relevant du ministère normal de l'Esprit-Saint qui exerce donc ce ministère parmi ceux qui le reçoivent, c'est-à-dire parmi tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est surtout cela, parmi tous les vrais croyants. On pourrait souhaiter que cet aspect du ministère de l'Esprit-Saint soit plus vivement apprécié qu'il ne l'est actuellement. Mais avec l'esprit contrariant, qui n'est pas le même, c'est le nôtre, je dis bien avec notre esprit contrariant, qui nous caractérise un état d'esprit aussi attristant que mutilant, nous nous intéressons aujourd'hui beaucoup plus aux manifestations extraordinaires, sporadiques et ponctuelles du ministère de l'Esprit-Saint que à celles beaucoup plus ordinaires qui nous concernent tous. Et c'est ainsi que, comme le souligne l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 30, nous témoignons d'un intérêt infiniment plus grand pour le don de guérison ou le don des langues que tous les chrétiens ne sont de toute façon pas appelés à posséder, contrairement à ce qu'il y en a qui prêchent que tous, sans exception, devraient parler en langue autrement, eh bien, c'est même pas des chrétiens. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, autrement, ce n'est pas sûr que vous pouvez entrer un jour près du Seigneur. Alors donc, je répète, dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 30, nous témoignons d'un intérêt infiniment plus grand pour le don des guérisons ou le don des langues, que tous les chrétiens ne sont de toute façon pas appelés à posséder, que pour l'œuvre habituelle de l'Esprit-Saint, laquelle consiste, et c'est là qu'il faut bien écouter, laquelle consiste à nous remplir de paix, de joie, d'espérance et d'amour, en répandant dans nos cœurs la connaissance de l'amour de Dieu. Et pourtant, ce dernier ministère est bien plus important que le premier. Il fallut que l'apôtre Paul insiste pour faire comprendre aux Corinthiens, persuadés que la joie et la paix et la piété qui croissent en proportion de l'exercice du don des langues, que sans l'amour, c'est-à-dire sans la sanctification et sans la, on peut dire, la ressemblance au Christ, eh bien, ce don n'avait malheureusement absolument aucune valeur en elle-même. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Il ne fait aucun doute que l'apôtre Paul jugerait aujourd'hui bien utile de répéter ce genre de mise en garde. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas demander le baptême du Saint-Esprit. Il serait donc tragique, chers amis, de voir le souci de renouveau spirituel qui se manifeste actuellement en maints endroits se fourvoyer dans l'impasse d'un nouveau corinthianisme. Ce que l'apôtre Paul pouvait désirer de mieux pour les Éphésiens quant au travail de l'Esprit Saint parmi eux, c'est que l'Esprit Saint poursuive en eux l'œuvre mentionnée dans Romains chapitre 5, verset 5, et qu'il le fasse avec une puissance croissante afin qu'ils parviennent à une connaissance de plus en plus profonde de l'amour de Dieu en Christ. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Chers amis, qu'est-ce que un réveil? On pourrait en dire des pages là-dessus, et chacun aurait raison à sa manière tant qu'il se tient près de l'écrit de la Sainte Parole. Et nous recevons dans le cœur différents points de vue qui se rejoignent avec le point de vue central. Et c'est une œuvre de Dieu qui redonne selon un processus inhabituel à une Église moribonde ses qualités propres à l'expérience et à la vie chrétienne que le Nouveau Testament considère comme absolument normale. Merci Seigneur. Un véritable souci de réveil ne se manifestera pas par une recherche éperdue uniquement du parler en langue, car en définitive, que nous parlions ou non en langue n'a aucune importance, mais bien plutôt par un ardent désir de voir l'Esprit Saint répandre plus abondamment l'amour de Dieu dans nos cœurs. J'ai connu et je connais encore des serviteurs de Dieu très puissants et vraiment merveilleux qui ont le don de prêcher d'une façon absolument merveilleuse la Sainte Parole, et pourtant ils ne parlent pas en langue. Et cela est vrai. Donc, essayons d'être cohérents et essayons d'avoir de l'amour les uns pour les autres, pour ceux qui parlent en langue comme pour ceux qui ne parlent pas en langue, mais qui croient à l'Esprit Saint et qui aiment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Car c'est par là, avec bien souvent au préalable une profonde conviction de péché, que va commencer le renouveau spirituel personnel. Et c'est cela qui entretient le réveil de l'Église une fois celui-ci commencé. Ce chapitre se propose d'étudier la nature de cet amour. Donc, notre thème, comme je l'ai dit au début, c'est surtout pour essayer ensemble de mieux comprendre la nature de l'amour divin répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et pour cela, nous concentrerons notre attention sur cette déclaration si importante de Saint Jean, « Dieu est amour ». Alléluia. En d'autres termes, cela signifie que l'amour manifesté par Dieu aux hommes, cet amour que les chrétiens connaissent et dont ils jouissent, nous révèle en fait d'être intérieur de Dieu. C'est d'être donc vraiment dans l'amour de notre Dieu, de notre Seigneur. Notre sujet va nous entraîner aussi loin qu'il est possible aux hommes de pouvoir y aller, hein, c'est clair, dans les profondeurs de ce ministère, ou plutôt de ce mystère de la nature divine. Allons un peu plus loin que ne l'ont fait toutes nos études précédentes. Ce n'est pas défendu. Et lorsque nous avons étudié la sagesse de Dieu, nous avons pu connaître quelque chose de son esprit lorsque nous avons étudié sa puissance. Et nous avons pu connaître quelque chose de sa main et de son bras. L'étude de sa sainte parole nous a appris quelque chose sur sa bouche, mais la contemplation de son amour va nous permettre de plonger nos regards jusque dans son cœur. Et nous allons donc pénétrer dans un lieu saint que Dieu nous accorde donc la grâce d'être remplis de respect afin que nous puissions y marcher sans péché. Pour situer ces choses, nous ferons à propos de la déclaration de Saint Jean deux commentaires d'ordre général. Premièrement, sachez que l'affirmation Dieu est amour ne résume pas toute la vérité biblique concernant Dieu. Je répète, premièrement, l'affirmation que Dieu est amour ne résume pas toute la vérité biblique concernant Dieu. Il ne faut pas voir dans cette déclaration une définition abstraite et isolée, mais un résumé pour le croyant de tout ce que la révélation scripturaire nous dit concernant son auteur. Et cette déclaration présuppose que l'on tienne compte de la totalité des témoignages bibliques rendus à Dieu. Le Dieu dont parle l'apôtre Jean est le Dieu qui a créé le monde, celui qui le condamna au déluge, n'oublions pas cela, et qui appela Abraham et il le rendit père d'une grande nation. C'est le Dieu qui dans l'Ancien Testament a même châtié son peuple en lui faisant connaître la défaite, la captivité et l'exil. Oui, ce Dieu-là qui envoya son Fils bien-aimé pour sauver le monde, qui rejeta le peuple d'Israël à cause de son incrédulité, qui permit la destruction de Jérusalem peu de temps avant que l'apôtre Jean avait écrit ces choses, le Dieu enfin qui jugera un jour le monde avec justice. Voyez-vous? Donc, voilà un aspect qui va compléter l'idée un peu poétique et sentimentale du Dieu d'amour. Donc, ce Dieu qui jugera un jour le monde avec justice. Et c'est ce Dieu-là, nous dit l'apôtre Jean, qui est amour. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est une lourde erreur que de se servir, comme le font certains, de cette affirmation de l'apôtre Jean pour mettre en doute ce que la Bible nous dit de la sévérité, de la justice de Dieu. Il est faux, absolument faux, de prétendre qu'un Dieu d'amour ne saurait être en même temps un Dieu qui condamne et qui punit les rebelles, car l'apôtre Jean parle précisément du Dieu qui a agi ainsi. Donc, pour éviter de nous faire une idée fausse de ce que l'apôtre Jean a voulu dire, il nous faut nous rapprocher de cette première déclaration, de deux autres déclarations importantes qui ont exactement le même schéma grammatical et que nous trouvons tous les deux ou tous les deux rapportés dans d'autres écrits de l'apôtre. Donc, il est très intéressant de noter quelles ont été faites Ils ont été faites par le Christ lui-même, ces déclarations. Donc la première de ces déclarations qui a été faite par Christ lui-même, elle se trouve dans l'évangile de Saint Jean, dans le récit de l'entretien du Seigneur, n'oubliez jamais cela, avec la femme samaritaine. Je pense que vous vous en souvenez. Dieu est esprit, Saint Jean chapitre 4, verset 24. Et la seconde, elle se trouve dans l'introduction de l'épître dont nous avons déjà parlé. Et là, l'apôtre Jean présente comme un résumé, un vrai résumé, de la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus-Christ, et que nous vous annonçons que Dieu est lumière. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 5. Il faut considérer ce Dieu qui est amour à la lumière de ce que nous enseignent ces deux autres déclarations. Il nous sera donc utile de les examiner brièvement maintenant. Dieu est esprit. Et lorsque il disait cela, notre Seigneur cherchait à détromper en quelque sorte la femme samaritaine, cette femme qui croyait que l'on ne pouvait adorer Dieu que dans un endroit bien particulier, comme si Dieu était en quelque sorte confiné dans un seul lieu. Il n'est pas du tout confiné dans une des plus fameuses cathédrales à Dresde, dans le nord de l'Allemagne, qui a été reconstruite d'une façon fabuleuse. Ça a coûté des millions et des millions, mais c'est magnifique, c'est vrai. Mais Dieu n'est pas confiné que là, comme si Dieu était en quelque sorte confiné que dans un seul lieu. Et l'esprit, elle s'oppose, l'esprit s'oppose à la chair. Et ce que Jésus-Christ voulait montrer par là, c'est que, à l'inverse de l'homme qui, parce qu'il est chair, ne peut être présent que dans un seul endroit à la fois. Nous sommes limités. Mais Dieu, parce qu'il est esprit, il échappe totalement à cette limitation. Dieu est immatériel et incorporel. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et par conséquent, il ne se localise pas. Et c'est pourquoi, continue le Christ, ce qui importe pour que votre adoration soit agréée par Dieu le Père, ce n'est pas l'endroit où vous vous trouvez, tel que Jérusalem, Samarie ou ailleurs, mais c'est que votre cœur soit ouvert à la révélation divine et puisse y faire écho. Donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, évidemment, puissent l'adorer en esprit et en vérité. Le premier des 39 articles de la confession de foi de l'Église anglicane explique assez curieusement la spiritualité de Dieu, comme le dit la confession, par le fait qu'il n'a ni corps, ils l'ont compris, eux, il n'a ni corps, ni élément, ni passion. Ça paraît peut-être incompréhensible pour certains. Et ces négations expriment quelque chose de très positif. Dieu n'a pas de corps. Cela, évidemment, est difficile à comprendre pour certains. Il ne connaît donc pas, comme nous venons de le dire, de limitations imputables à l'espace ou à la distance. Il est simplement omniprésent. Dieu n'est pas composé d'éléments, et cela signifie que sa personnalité, que ses pouvoirs et ses qualités forment un tout parfaitement homogène, si bien que rien en lui ne change jamais, jamais. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Jacques, chapitre 1, verset 17. Il ne connaît donc aucune des limitations imputables au temps ou à certains processus naturels. Il reste éternellement le même, ce qui n'est évidemment pas le cas pour nous. Dieu n'a pas de passion, et ceci ne veut pas dire que Dieu soit insensible, impassible, ou qu'il ne puisse rien ressentir qui s'apparente à nos émotions ou à nos affections. Mais cela signifie que là où les passions humaines, en particulier celles qui sont source de douleur, comme la peur, le chagrin, le regret, le désespoir, sont, en un sens, involontaires et passivement subis, car suscités et commandés par des circonstances qui ne dépendent pas de l'homme, les dispositions d'esprit de Dieu correspondent, sont donc les conséquences. Elles sont les conséquences d'un choix, un choix délibéré, un choix volontaire, et elles n'ont donc absolument rien de commun avec les passions humaines. Rien de commun. Ainsi donc, l'amour de Dieu, qui est esprit, n'a pas ce caractère changeant et incertain qui est propre à l'amour humain. Il ne ressemble pas non plus à une aspiration vaine vers l'inaccessible. Je répète, il ne ressemble pas non plus à une aspiration qui serait vaine, et vaine surtout vers l'inaccessible. Non, notre Dieu est accessible à nos prières, à nos sentiments, à notre amour pour lui, aussi à nos chagrins. Il s'apparente plutôt à une résolution spontanée de tout son être. Dieu a résolu d'adopter envers l'homme une attitude bienveillante et bienfaisante, et cette attitude est librement choisie et fermement arrêtée. Donc aucune inconstance, aucune vicissitude dans l'amour du Dieu Tout-Puissant qui est esprit. Son amour est fort. Il est vraiment fort, comme la mort, et les grandes eaux ne peuvent jamais l'atteindre. Rien ne peut séparer de l'amour de Dieu tous ceux, vous, chers amis, qui lui appartiennent. Rien ne peut donc séparer de l'amour de Dieu tous ceux, vous y compris, moi y compris, qui lui appartiennent. Romains, chapitre 8, verset 35, jusqu'au verset 39. Mais si Dieu est esprit, il est aussi lumière. Et en déclarant cela, l'apôtre Jean s'élève contre certains chrétiens, ou soi-disant tels, qui, ayant perdu tout sens des réalités morales, affirmaient que rien de ce qu'ils faisaient, de ce que eux font, n'était considéré comme un péché ou ne pouvait être considéré comme étant un péché. Cette affirmation se trouve renforcée par la suite du texte. Il n'y a point en lui de ténèbres. La lumière, c'est la sainteté, c'est le contraire des ténèbres. La pureté selon la loi de Dieu, c'est la lumière. Les ténèbres, ce sont la perversité morale et l'iniquité. Et toujours selon le même critère, vous pouvez noter 1er épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 7 à 11, ainsi que le chapitre 3, verset 10. Ce que Saint Jean veut démontrer, c'est que seuls ceux qui marchent dans la lumière, en cherchant par une vie de sainteté et de justice à ressembler, à ressembler à Dieu. Nous n'arriverons jamais totalement, impossible, mais Dieu le sait et il accepte cela. Il nous aime, mais essayons de lui ressembler en se détournant de tout ce qui s'y opposerait. Jouissant de la communion du Père et du Fils, eh bien nous pouvons y arriver. Ceux qui marchent dans les ténèbres y restent étrangers, quoi qu'ils puissent en dire. 1 Jean, premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 6. Ainsi donc, le Dieu qui est vraiment amour est avant tout également lumière. Il illumine nos cœurs et de ce fait, il voit tout. Ce qui exclut dès l'abord toutes les conceptions sentimentales d'un amour indulgent, tellement indulgent, comme une maman aujourd'hui, il y en a, malheureusement, ils n'ont parfois pas le choix, qui sont obligés d'être tellement indulgentes envers leur fils ou leur fille, que c'est triste. Les conséquences en sont tellement tristes, et vous pouvez les voir pour ceux qui regardent de temps en temps les émissions sur Canal 8. Eh bien, c'est affreux. Donc, Dieu n'est pas un Dieu avec des conceptions sentimentales comme nous les humains et avec une indulgence à tout bord et d'une façon, on peut dire, totale. Non, il est bienveillant, mais il est étranger à toute préoccupation et à tous les critères moraux. Si nous avons une moralité qui est contraire aux prescriptions, aux indications que nous trouvons dans la Sainte Bible, eh bien, il ne peut pas être indulgent avec nous. C'est pas possible. Il ne faut pas voir l'amour de Dieu de cette façon-là. Ce n'est pas de l'amour si un papa laisse faire tout à son fils ou à sa fille, qu'il fasse n'importe quoi, il est tellement indulgent et plein d'amour. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas le vrai amour. Il ne leur rend pas service. La preuve, c'est ce qui en résulte plus tard. Donc l'amour de Dieu est un amour très saint. Le Dieu que Jésus-Christ nous fait connaître n'est pas un Dieu indifférent aux valeurs morales, mais il est un Dieu qui aime la justice et qui haït l'iniquité. Un Dieu dont l'idéal pour ses enfants est qu'il soit parfait. Ça ne veut pas dire que nous arrivons à être parfaits, mais vous l'avez bien compris ce que je veux dire par là. Comme leur Père Céleste est parfait. Essayez de nous approcher de cela. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Il n'acceptera pas à ses côtés quelqu'un qui, aussi orthodoxe que soient ses idées, ne recherche pas une vie de sainteté et à ceux qu'il accepte, il impose une discipline sévère. Je dis bien une discipline sévère. Je connais certaines personnes qui n'ont aucune discipline. Et ils pensent que l'amour de Dieu et son indulgence va éponger tout cela automatiquement. C'est pas sûr. Non, non, car le Seigneur, il châtie celui qu'il aime. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et peut-être il faudrait même le répéter. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Une maman, elle châtie, un papa châtie son fils, son garçon, quand vraiment il outrepasse certaines règles et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils et pour ses filles, et ceci pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Or le châtiment, il produit plus tard, je dis bien plus tard, pour tous ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 11. Laissez tout faire, vos enfants, n'est pas du tout un grand service que vous leur rendez. Bien au contraire. L'amour de Dieu est un amour grave, car il témoigne de la sainteté de celui qui aime et appelle à la sainteté celui qui est aimé. Rien dans les Saintes Écritures ne nous permet de supposer que parce que Dieu est amour, nous puissions compter sur lui pour assurer le bonheur de ceux qui ne recherchent pas du tout la sainteté ou pour protéger ses bien-aimés de l'adversité lorsque il sait celle-ci nécessaire à leur sanctification. Mais nous passerons maintenant au second commentaire qui contrebalancera le premier. Donc, deuxièmement, pour les chrétiens que nous sommes, je l'espère pour tous, l'affirmation « Dieu est amour », cela résume toute la vérité concernant Dieu. Je répète, pour le chrétien, l'affirmation « que Dieu est amour », cela résume toute la vérité concernant Dieu. Dire que Dieu est lumière, c'est donc dire que la sainteté de notre Dieu s'exprime dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. De même, dire que Dieu est amour, c'est de dire que son amour s'exprime dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Savoir que ce principe s'applique à sa propre vie et pour le chrétien, pour nous qui sommes les chrétiens, le réconfort suprême. La croix de Christ, elle permet aux croyants que nous sommes d'avoir l'assurance d'être personnellement aimé de Dieu. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Sachant cela, le croyant peut faire sienne la promesse qui lui assure que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Non pas seulement certaines choses, notons le bien, mais toutes choses. Donc, on a bien compris, cela se limite pas seulement à certaines choses, mais à toutes choses. Et le chrétien, il sait très bien que chaque événement de sa vie quotidienne est une manifestation de l'amour de Dieu. Et lui est envoyé, pour favoriser l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie, dans notre vie. Ainsi donc, pour le chrétien, Dieu est toujours et en toutes circonstances amour, un amour saint et un amour tout-puissant. Même lorsqu'il est incapable de comprendre le pourquoi et le comment des agissements divins, eh bien le chrétien sait qu'ils lui sont dictés par l'amour. Il peut donc toujours se réjouir, même lorsque les choses vont mal, humainement parlant. Et j'en ai eu des passages comme ça. C'est pas drôle du tout. Et je comprends ceux qui glissent parfois sur une pelure de banane. Ça veut pas dire que je les aime pas. Je les aime même davantage. Et je les prends dans mes bras pour leur dire « Ne t'en fais pas, le Seigneur t'aime. » Et prends sa main et il te tirera dehors de tout ça. Oui, il sait que lorsque elle sera connue, la véritable histoire de la vie, elle révélera que tout a été grâce, et cela du début jusqu'à la fin, et donc par conséquent, il ou elle a le cœur en paix. Chers amis, jusqu'ici, nous n'avons fait que situer l'amour de Dieu en montrant de façon relativement générale comment et quand il opère. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut maintenant poser la question, qu'est-ce donc vraiment cet amour? Comment pourrions-nous le définir et l'analyser? La Bible nous donne une réponse à ces questions que nous pourrions résumer de la façon suivante. L'amour de Dieu est l'expression de sa bonté en faveur de certains pécheurs. Après s'être identifié à leur cause, Dieu a manifesté son amour pour ces pécheurs par le don de son Fils bien-aimé, afin qu'il devienne leur sauveur, et maintenant il les amène à le connaître et à se réjouir en lui dans le cadre d'une relation d'alliance. Et nous expliquerons brièvement chacun des termes de cette définition-là. Premièrement, l'amour de Dieu est une expression de sa bonté. L'amour de Dieu est une expression de sa grande bonté. Ce que la Bible appelle la bonté de Dieu est cette perfection de Dieu qui le pousse à traiter avec générosité et avec bienveillance toutes ses créatures sensibles, précisément parce qu'elles sont ses créatures. Psaume chapitre 105, 145, vous pouvez noter Psaume 145, verset 9 et le verset 15. Ensuite, notez Saint-Luc chapitre 6, verset 26 et Actes des Apôtres chapitre 14, verset 17. Donc, l'amour de Dieu, c'est la manifestation la plus grande et la plus glorieuse de cette divine bonté. En général, l'amour est ce principe qui pousse un être à en désirer un autre et à trouver sa joie en lui. L'amour atteint donc sa forme la plus élevée dans ce type de relation personnelle où chacun vit la vie de l'autre et ne peut être heureux qu'en se donnant à l'autre et en recevant en retour son affection. Je parle là surtout pour ceux qui ont le bonheur de s'aimer dans le mariage. Et j'ai connu cela 40 ans. Et ma sainte épouse m'a été enlevée par erreur médicale. Et ça fait 20 ans maintenant qu'elle est auprès du Seigneur. Et je ne vais pas vous cacher, vous mentir, en vous disant que je n'ai pas souffert. Ce serait mentir. J'ai presque pété les plombs. C'est ça la vérité. Et comme je ne suis pas trop riche, c'était difficile de retrouver quelqu'un. Mais passons. J'ai le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous aime et qu'est-ce qu'il vous aime. Deuxièmement, revenons sur terre. L'amour de Dieu est l'expression de sa bonté envers les pécheurs. L'amour de Dieu est l'expression de sa bonté envers les pécheurs que nous sommes, moi y compris, car je suis, hélas, sauvé par grâce uniquement. uniquement. À ce titre, eh bien, Dieu est par nature grâce et miséricorde. Et c'est là une manifestation de la bienveillance divine qui est non seulement imméritée, mais qui, en fait, est contraire à toute idée de mérite, car ceux que Dieu aime sont des créatures douées de raison qui ont transgressé sa loi, et moi y compris parfois, et j'en suis pas fier. Aux yeux de Dieu, leur nature corrompue ne mérite donc pas autre chose que la condamnation et le bannissement définitif loin de sa face. S'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas l'amour du Seigneur pour nous, chrétiens, qui aimons le Seigneur, mais qui ne sommes pas toujours parfaits, dans l'Ancien Testament, si nous avions vécu de ce temps-là, au temps de Moïse, on n'aurait pas eu beaucoup de chance. Il est donc stupéfiant que Dieu ait pu aimer des pécheurs comme moi. Et pourtant, c'est une réalité. Dieu aime des créatures qui n'ont plus ni aucune raison d'être aimées, ni aurait-on pu croire aucune chance d'être aimées. Ces créatures, objets de son amour, ne possédaient strictement rien pour faire naître l'amour, rien pour l'attirer ou le susciter. Et pour que l'amour naisse en l'homme, il faut qu'il y ait ce quelque chose dont l'être aimé, ce quelque chose qui fasse jaillir l'étincelle. Mais l'amour de Dieu est libre, il est spontané, il est sans cause et sans motif. Dieu aime les hommes, les femmes, parce qu'il a choisi de les aimer. Oui, et j'ai eu le bonheur et la grâce de Dieu que, malgré que mon père était horrible et qu'il m'a battu parfois presque à mort, et comme il s'est marié 5 fois parce qu'il était très riche, les marâtres m'ont fait souffrir le martyr et j'ai dû fuir à l'âge de 13 ans. J'ai pu faire que 4 ans d'école primaire et Dieu m'a fait rencontrer une sainte épouse, une jeune fille, une sainte qui m'a tout appris. Et grâce à elle, et j'exagère peut-être, pourquoi pas, c'est pour mieux faire comprendre ce que je voudrais dire, eh bien, grâce à elle, je n'ai ni atterri à Sing Sing, ni à une prison des plus terribles du monde, hein, Alcatraz et autres, mais elle m'a remis sur le bon sentier, sur la bonne voie. Et j'en suis tellement reconnaissant, toujours reconnaissant. Soyons toujours reconnaissants, mes chers amis, pour toutes les bontés que nous puissions vivre ou que vous pouvez vivre. Soyez toujours reconnaissants. N'oubliez jamais dire de merci. Jamais dire merci. C'est très important d'être reconnaissant. Bien sûr, comme je ne suis pas assez riche, eh bien, voilà, hein. Bon, eh bien, comme le disait notre ami qui est auprès du Seigneur, un homme de Dieu merveilleux, il y en a beaucoup d'autres, Charles Wesley, pour le nommer, il a dit, il nous a aimés. Il nous a tellement aimés parce qu'il a voulu aimer. Et là, on peut noter même un verset de l'Ancienne Alliance, Deutéronome, chapitre 7, verset 8. Et on ne peut trouver d'autre raison à son amour que celle de son bon plaisir souverain. Ni le monde grec, ni le monde romain, de l'époque-là, de l'époque néo-testamentaire, n'avait jamais rêvé un pareil amour. Jamais. On croyaient les dieux de l'époque capables de désirer des femmes, mais on ne les avait jamais crus susceptibles d'aimer des pécheurs. Et les auteurs du Nouveau Testament ont été en fait obligés d'inventer un terme grec nouveau pour exprimer l'amour de Dieu tel qu'ils le connaissent, le fameux mot agapé. C'est pas du tout la même chose que l'amour charnel. Troisièmement, l'amour de Dieu, chers amis, est l'exercice de sa bonté envers certains pécheurs. Ah oui, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a exercé sa bonté, son grand amour, sa miséricorde envers un pécheur perdu que j'étais. Oui, l'amour de Dieu n'est pas une bienveillance vague et diffuse qui s'étend à tout le monde et à personne en particulier. Bien au contraire, la nature de cet amour, c'est-à-dire le fait qu'il émane d'une toute-puissance omnisciente, le conduit à individualiser son objet et son action. Le dessein d'amour de Dieu établit donc dès avant la fondation du monde, selon Éphésiens au chapitre 1, verset 4, et donc il a impliqué en premier lieu le choix et la sélection de tous ceux qui seraient bénis, et en second lieu, la détermination des privilèges qui leur seraient accordés et des moyens de les leur procurer afin qu'ils puissent en jouir. Il faudrait répéter cela, me semble-t-il. Donc le dessein d'amour de Dieu établit dès avant la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1 verset 4, a impliqué en premier lieu le choix et la sélection de tous ceux qui seraient bénis, et en second lieu, la détermination des privilèges qui leur seraient accordés et des moyens de les leur procurer afin qu'ils puissent en jouir. Tout ceci, chers amis, a été établi dès le commencement, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, que j'appelle souvent aussi saint Paul, il a écrit aux chrétiens de Thessalonique, « Pour nous, frères et sœurs bien-aimés, vous savez, quand il est dit frères dans la Bible, comprenez pas mal, mes chères sœurs, ça veut dire frères et sœurs. Alors des fois j'ajoute sœurs, hein, pour ne pas oublier. Donc pour nous, frères, et j'ajoute mes chères sœurs, mes bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi, une sélection, oui, dès le commencement, avant même la création, pour le salut, pour le but, pour la sanctification de l'Esprit-Saint et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Et cette manifestation de l'amour de Dieu pour certains pécheurs n'est autre que l'accomplissement du dessein qu'il avait formé de toute éternité, c'est de bénir ses pécheurs. Quatrièmement, l'amour de Dieu pour les pécheurs implique sa propre identification à leur cause. L'amour de Dieu pour les pécheurs implique sa propre identification à leur cause. Tout amour implique ce genre d'identification qui se trouve même être la pierre de touche d'un amour authentique. Si un père reste joyeux et insouciant lorsque son fils est en difficulté, si un mari demeure insensible devant la détresse de sa femme, on ne peut s'empêcher de se demander si ces gens-là s'aiment vraiment. Car chacun sait que lorsque l'on aime vraiment, vraiment, on ne peut être heureux que si l'être aimé est lui aussi vraiment heureux. Il en est de même pour l'amour que Dieu porte à l'homme. Au cours des études précédentes, nous avions insisté sur le fait qu'en toute chose, le but final recherché par Dieu était sa propre gloire, qu'il soit reconnu, qu'il soit admiré et également adoré. Ceci est vrai, mais doit être complété par une autre affirmation. En accordant son amour aux hommes, Dieu a délibérément lié son bonheur final au leur. Ce n'est pas sans raison que la Bible parle fréquemment de Dieu comme d'un père aimant ou comme de l'époux de son peuple. Il s'ensuit qu'en raison même de la nature de ces relations, le bonheur de Dieu restera incomplet tant que ses bien-aimés ne seront pas définitivement à l'abri de tout danger. Dieu était heureux sans l'homme, il n'en avait pas besoin. Avant que celui-ci soit créé, Dieu était heureux et il aurait continué d'être heureux s'il avait tout simplement détruit l'homme après qu'il avait tellement péché. Mais Dieu a aimé, c'est là toute la merveille. Dieu a aimé les pécheurs que nous sommes, et à cause de cela, il a librement et volontairement renoncé à jouir du bonheur parfait et sans mélange qui était le sien auparavant, jusqu'à ce qu'il ait amené au ciel chacun de ceux qu'il a aimés, et vous et moi y compris. Il a en fait décidé que désormais, et pour l'éternité, son bonheur serait fonction du nôtre. L'œuvre salvatrice de Dieu ne sert donc pas seulement sa propre gloire, mais elle contribue aussi à son bonheur. Ceci explique, dans une certaine mesure, pourquoi il y a de la joie de Dieu, devant les anges. Il est dit que tout le ciel se réjouit lorsque un seul pécheur se repent. Saint Luc chapitre 15 verset 10. Et pourquoi il y aura de l'allégresse lorsque, au dernier jour, Dieu nous fera paraître irrépréhensibles en sa sainte présence. Jude verset 24. C'est donc une pensée qui dépasse l'entendement et que l'humble foi elle-même accepte difficilement. Mais si l'on s'en rapporte à l'Écriture sainte, il ne peut y avoir de doute, car l'amour de Dieu est bien aussi merveilleux. Cinquièmement, l'amour de Dieu pour les pécheurs est manifesté par le don de son Fils destiné à devenir leur sauveur. Répétons, l'amour de Dieu pour les pécheurs est manifesté par le don de son Fils bien-aimé, destiné à devenir leur sauveur, à devenir ton sauveur. L'amour se mesure à ce qu'il donne, et Dieu a donné son propre Fils. Il l'a donné afin qu'il soit fait homme et qu'il meure pour les péchés des hommes, devenant ainsi le seul médiateur capable de nous conduire à Dieu. Quoi d'étonnant à ce que l'apôtre Paul parle du grand amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Éphésiens chapitre 2 verset 4 ainsi que chapitre 3 verset 19. A-t-on jamais vu semblable magnificence, semblable amour? Saint Paul, il voyait dans ce don suprême la garantie de tous les autres dons, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, verset 32. Les auteurs néo-testamentaires ramènent sans cesse leurs lecteurs à la croix du Christ, qui leur apparaît comme la preuve suprême de la réalité et de l'immensité de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi, après avoir affirmé que Dieu est amour, 1er épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 8, Saint Jean enchaîne en disant « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son propre Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, pour mes péchés. » 1 Jean chapitre 4 verset 9. Et il dit aussi dans son évangile, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » 5 Jean chapitre 3 verset 16. Donc, l'apôtre Paul ou saint Paul a écrit dans le même ordre d'idées, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, moi y compris, Christ est mort pour nous, Romains chapitre 5 verset 8, et pour l'apôtre, la preuve que le Fils de Dieu m'a aimé, c'est qu'il s'est livré lui-même pour moi et pour toi. Galates chapitre 2 verset 20. Et sixièmement, nous arrivons bientôt à la fin, l'amour que Dieu porte aux pécheurs atteint son objectif lorsqu'il les amène à le connaître et à se réjouir en lui dans le cadre d'une relation d'alliance. Je répète, l'amour que Dieu porte aux pécheurs atteint son objectif lorsqu'il les amène à le connaître et à se réjouir en lui dans le cadre d'une relation d'alliance. Une relation d'alliance est une relation permanente dans laquelle deux parties prennent l'engagement de s'aider mutuellement et de se soumettre l'une à l'autre. Exemple, le mariage. Le mariage. Et dans la Bible, la religion revêt la forme d'une relation d'alliance avec Dieu. Les modalités de cette relation furent pour la première fois clairement définies lorsque Dieu se révéla à Abraham en tant que El Shaddai. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu suffisant, et qui lui a fait formellement la promesse d'alliance. « Je serai ton Dieu. » Genèse chapitre 17 verset 1. Donc, par la foi en Christ, tous les chrétiens sont héritiers de cette promesse, comme l'explique l'apôtre Paul aux Galates, Galates chapitre 3 verset 15, et notant spécialement le verset 29. Qu'est-ce que signifie au juste cette promesse ? En fait, c'est une promesse très générale, tout y est, tout s'y trouve. C'est la première des promesses, celle de la base, c'est le principe vital et l'âme de toutes les promesses. C'est comme s'il avait dit, aussi vrai que mes attributs servent ma propre gloire, eh bien vous y aurez part pour votre bien, et ma grâce dit, c'est ce que dit Dieu, elle vous sera donnée pour vous pardonner, oui, pour me pardonner, pour te pardonner. Et Dieu dit, mon pouvoir pour vous protéger, il est donné pour vous protéger, et ma sagesse, elle est donnée pour vous conduire. Ma bonté, elle vous est donnée pour vous réconforter. Ma miséricorde vous est donnée pour vous combler. Et ma gloire vous est donnée pour vous couronner. C'est donc une promesse dont la portée est immense. Car pour Dieu, être notre Dieu, c'est être notre tout. Dieu est à moi et toutes choses sont à moi, disaient Luther et Calvin. Le véritable amour, c'est faire tout ce que l'on peut pour celui que l'on aime, et c'est ce que Dieu fait pour ceux qu'il aime, tout ce qu'il peut. Et pour avoir une idée de ce que cela représente, souvenons-nous qu'il est omnipotent, et par la foi en Christ nous accédons dès à présent déjà, et pour l'éternité ensuite, à une bénédiction inestimable. Mes chers amis, voyez-vous, j'ai dû prendre certaines mesures de discipline et nous tous, nous devrions jamais avoir peur de nous discipliner. Par exemple, après une prise de sang, eh bien, je dois obéir aux prescriptions du docteur qui dit « Ne bois plus pendant un bon moment une goutte d'alcool. » Elle m'a pas dit comme ça, mais je veux le faire. Et fais attention à ne pas t'empiffrer. Elle n'a pas dit ce mot-là. De viande rouge. Et je vais m'en abstenir pendant un bon moment. Et c'est pour ça que j'ai pu vous parler ainsi. Car la force et la vitalité n'est pas forcément dans l'alcool. Chers amis, pour moi, chrétien, eh bien, Dieu est devenu vraiment amour. Et cet amour implique-t-il réellement tout ce qui a été dit? Si la réponse est positive, certaines questions vont se poser. Pourquoi suis-je toujours en train de me plaindre et d'exprimer mon mécontentement et mon ressentiment face aux circonstances que Dieu a voulu pour moi? Pourquoi n'ai-je jamais confiance? Pourquoi ai-je peur? Pourquoi suis-je déprimé? Pourquoi suis-je tiède, formaliste et si peu empressé à servir ce Dieu qui m'aime tellement? Pourquoi ne puis-je jamais être parfaitement loyal, refusant à Dieu l'entière possession de mon cœur? Si l'apôtre Jean écrivait que Dieu est amour, c'était afin de dégager une règle d'éthique. Si Dieu nous a ainsi aimés, eh bien nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est la moindre des choses. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 11. Donc, la qualité et l'intensité de mon amour pour les autres, pour ma femme que je n'ai plus, bon, pour mon mari, si vous êtes marié, pour ma famille, j'en ai plus, pour mes voisins, alors là j'en ai, pour mes frères et sœurs de l'Église, j'en ai aussi un peu partout, pour les collègues de travail, permettrait-elle à quelqu'un qui me regarderait vivre d'apprendre quelque chose de la grandeur de l'amour que Dieu a pour moi? Voyez-vous, méditons donc toutes ces choses et examinons-nous. Ce ne sera pas un péché. Et rappelez-vous, et je le dis pour moi y compris, la discipline dans la vie ne fait de mal à personne. Nous allons terminer par la prière, si vous le permettez. Nos âmes s'élève à toi, Seigneur, et te bénisse encore dans cette journée que tu ajoutes à nos jours. Toutes tes œuvres te louent et proclament ta puissance et ta bonté. L'azur des cieux qui ravit nos regards, les merveilles insondables de la création, tout nous parle de toi, ô notre Dieu, tout nous dit que tu ne te lasses pas de répandre sur nous tous tes bienfaits. Mais combien les dons de ta miséricorde ne sont-ils pas plus grands encore? Et combien les richesses de la nature ne sont-elles pas surpassées par celles de ton évangile, de cet évangile qui nous révèle ta volonté, tes promesses, qui nous apprend que tu nous as donné un sauveur toujours prêt à nous recevoir en grâce et qui ne nous demande que d'accepter le salut qu'il nous présente. Ô Seigneur, comment nos âmes résisteraient-elles aux appels de sa voix divine. Il a tout accompli pour nous. Il est mort pour nos péchés et c'est par lui que nous avons la paix et que nous obtenons les dons de ton Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, incline nos âmes à chercher leur Sauveur, à l'aimer, à s'attacher étroitement à lui. Enseigne-nous aussi à veiller et à prier, à nous préparer à paraître devant toi. Aie pitié de tous ceux qui sont affligés ou malades. Ô que ton règne vienne, que beaucoup d'âmes se tournent encore vers toi aujourd'hui, qu'elles entendent tes appels et que ton nom soit béni et glorifié dans toutes les parties de l'univers. Amen. Amen. Et chers amis, d'habitude, je vous mets parfois encore quelques chants à la fin, mais cette fois, ça a été un peu plus long, et je vous demande, il n'est pas défendu pour mieux saisir certains aspects de ces études, de temps en temps, de réécouter un de ces messages. Alors, à bientôt à nouveau, à demain, Dieu voulant, pour la suite, puisque j'essaye, tant que Dieu me donne la force, et aussi qu'il m'aide puissamment, de faire un minimum de 5 à 6 de ces études par semaine, et vous pouvez donc regarder sur le site internet, il doit s'y trouver bientôt dans les 3000 études de la Sainte Parole de Dieu. À bientôt à nouveau, que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. Gloire à Dieu.